Sud Radio, les clés d'une vie, 11h midi, Jacques Pessis.
Les clés d'une vie, celle de mon invité. Pendant 30 ans, à travers la publicité, vous avez défendu l'image de la France. Du haut de votre 1m90, vous prenez aujourd'hui un peu plus de hauteur encore avec une aventure qui va vous permettre d'imprimer votre propre marque. Bonjour Maurice Lévy.
Bonjour Jacques Pessis.
Alors, publiciste, bien sûr, c'est votre histoire, on va la raconter. Aujourd'hui, vous avez un nouveau projet, l'Escalator, qui est important pour l'avenir, dont on va parler aussi. Moi, je suis heureux qu'on vous accueille et qu'on parle de votre parcours, parce que finalement, on le connaît peu. Et ce parcours, on va l'évoquer à travers des dates clés. Et la première, elle vous dira sans doute quelque chose, c'est le 28 septembre 1972.
Ah, bien sûr. Évidemment qu'elle me dit quelque chose, puisque c'est l'incendie de Publicis.
Sur les Champs-Élysées.
Absolument. C'était le soir. J'avais rejoint le groupe Publicis un an et demi avant exactement, le 2 mars 1971. J'arrive sur le haut des Champs-Élysées vers 11h du soir, après avoir dîné chez la Mazère. Je vois le ciel rouge. Et je dis à mon épouse et à mes amis qui étaient avec moi, je dis, mais c'est Publicis qui brûle. Et cet ami me dit, arrête de tout ramener à toi, c'est le CCF. Je dis, bon, si c'est CCF, c'est pas grave. Et puis j'avance, alors, première surprise, alors que l'immeuble est en train de brûler, on roule sur les Champs-Élysées sans problème.
Oui.
J'arrive jusqu'à l'étoile, une masse compacte de gens, je confie la voiture à mon épouse, et puis je descends. Et je vois Marcel Blossel-Blanchet qui regarde l'immeuble brûlé, stoïque. Tout d'un coup, je pense aux collaborateurs de l'informatique qui sont là et je me précipite pour essayer d'entrer. Les pompiers m'interdisent, on se bagarre un petit peu et je suis empêché d'entrer.
Et d'ailleurs, Marcel Blossel-Blanchet s'est plaint des pompiers ce jour-là.
Oui.
Écoutez.
Absolument, il s'est plaint des pompiers, il a trouvé que les pompiers n'étaient pas arrivés à temps.
Écoutez.
Ils sont arrivés, je calcule, moi, qu'ils sont arrivés au moins un quart d'heure après. J'ai attendu sur le trottoir devant la rue Vernet, je voyais les flammes tout d'un coup, par la cheminée d'en haut, évidemment, ça, il y a eu des flammes importantes. J'attendais toujours, ils sont arrivés avec une première voiture, une première lance de l'autre côté, et il n'y avait pas d'eau.
Voilà.
Alors ce qui est terrible, c'est que non seulement ils sont arrivés bien après, ils sont arrivés avec une petite camionnette,
oui.
Et ils ne savaient pas, quand ils se sont rendus compte de ce que c'était, ils ont fait venir d'autres camions de pompiers avec d'autres brigades, et ils ne savaient pas où se trouvaient les bouches d'eau. C'était impressionnant. Ils étaient là avec des cartes. Mais alors, c'est où? Mais non, celle-là a été fermée. Mais non, c'est ici, etc. C'était absolument terrifiant.
Et vous avez réussi à vous emparer d'une veste et d'un casque et à entrer par derrière et même sauver une employée qui était évanouie.
Alors, effectivement, je suis entré beaucoup plus tard dans la nuit. Par derrière, il y avait une espèce de commande-car sur lequel il y avait une veste en cuir, un casque. Et puis le pompier qui était de service s'est mis au garde-à-vous, m'a laissé entrer. Et là, j'ai vu tous les dégâts qui avaient été causés. Et malheureusement, votre information est malheureusement pas tout à fait conforme. J'ai trouvé plutôt le cadavre. Et j'ai vu la seule personne qui est décédée, qui était une caissière du drugstore, qui était sortie et qui était revenue pour aller chercher son sac. C'était effrayant, donc, et j'ai vu que, aussi quelque chose, c'est que tout ce qui n'était pas détruit par le feu était détruit par l'eau. Donc immédiatement, je me suis mis en quête des fichiers que je pouvais sortir. J'ai cassé une fenêtre et j'ai jeté par-dessus la fenêtre tout ce que je pouvais sortir de l'immeuble, craignant justement qu'il soit condamné, ce qui est arrivé quelques heures plus tard.
Oui, et vous avez sauvé l'entreprise, car c'était la mémoire de l'entreprise.
J'ai en tous les cas sauvé la mémoire. Et pas seulement la mémoire, j'ai sauvé les fichiers, j'ai sauvé toutes les campagnes qui étaient en cours, et j'ai récupéré aussi la possibilité de payer les salaires, de facturer les clients.
C'est important.
Oui, c'est important. Et de payer les fournisseurs. Et donc, l'entreprise a continué quasiment sans interruption. Il y a eu 4 jours d'interruption et nous n'avons pas manqué une seule campagne, pas une seule annonce, et grâce justement aux outils informatiques qu'on avait mis en place.
Alors, j'en reviens un peu au passé. Vous êtes né à Oujda, au Maroc. Oujda qui a été détruite d'ailleurs 10 de fois et qui renaît de ses cendres à chaque fois, parce que votre famille ne pouvait pas rester en Espagne ni en France, Maurice Lévy.
Oui, bon, comme mon nom l'indique, je suis juif. Mes parents étaient espagnols. Et ils étaient retournés en Espagne longtemps avant la guerre. Et puis, mon père avait décidé de s'engager dans la guerre d'Espagne. Ce qui n'était pas du goût de sa famille, et ni du goût, bien entendu, de Franco. Et il a été fait prisonnier, il a réussi à s'évader, il s'est réfugié dans le sud de la France. Ma maman l'a rejoint avec mes frères qui étaient nés. Et puis à ce moment-là, il y a eu la poussée allemande sur le sud de la France et ils ont décidé de traverser la frontière. Et c'est ainsi que je suis né à Oujda. Ma mère a traversé la Méditerranée. Et puis ensuite, ils ont échoué sur une plage de sable. Et ils ont continué jusqu'à Oujda à pied et à dos d'âne. Et je suis né quelques semaines après.
Alors, vous avez grandi au départ avec l'idée de devenir chirurgien.
Et oui, malheureusement, vous voyez, j'ai échoué.
Oui, ben vous avez fait d'autres réussites. Et surtout, il y a un concours étonnant qui a changé votre vie, c'est le concours des chaussures Bata. Il faut savoir que les chaussures Bata, à l'époque, c'était les reines du monde. On a vendu 14 milliards de paires, c'était au Canada surtout, c'était partie d'une entreprise tchèque. Et puis, ils font un concours étonnant.
Oui, ils font un concours où ils essayent de sélectionner des gens qu'ils vont choisir sur... leurs ambitions, leur caractère, leur volonté, pas tellement sur le cursus, et beaucoup plus sur la personnalité. Et je gagne, et donc à partir de là, je fais un petit bout de chemin aux États-Unis.
Voilà. Et aux États-Unis, vous apprenez l'informatique, vous découvrez l'informatique qui est naissante à l'époque. D'ailleurs, le terme informatique, c'est un Français, Philippe Dreyfus, qui l'a inventé en mélangeant deux mots, c'est-à-dire information et automatique.
Absolument, Philippe Dreyfus, qui était d'ailleurs le fondateur d'une société qui s'appelle CAP, qui a plus tard fusionné avec Gemini.
Alors, vous...
Et Capgemini, c'est donc une des créations de Philippe Dreyfus.
Voilà. Alors, vous rentrez en France et au départ, il y a une petite entreprise qui vous engage, Synergie, où vous allez découvrir le monde de la publicité, Maurice Lévy.
Ah oui, alors, j'avais des propositions par ailleurs et j'étais vraiment très embêté parce qu'aucune des propositions ne me séduisait. Et il y a un de mes amis qui me dit « Mais il y a cette agence de publicité qui cherche le patron de l'informatique et tu devrais y aller. » Ça devrait marcher. J'ai dit oui, mais je suis bien, bien jeune pour diriger. Mais oh, tu sais, ils n'y comprennent rien, ils te recruteront. Et effectivement, j'ai été recruté en 20 minutes. Et j'ai fait un parcours formidable dans une agence que j'ai beaucoup aimée. Et effectivement, très très vite, je ne passais que la moitié de mon temps à l'informatique. Et l'autre moitié, je passais avec les créatifs. J'adorais la création et j'étais à un moment devenu un peu la mascotte des créatifs et j'allais avec eux dans les pitchs. Et chaque fois qu'ils m'emmenaient, ils gagnaient. Et donc, progressivement, je me suis dit, tiens, j'ai peut-être un petit talent commercial. Et j'ai passé quelques années magnifiques où j'étais de facto devenu le directeur général de cette agence. Et puis, Claude Neuschwander, qui ensuite a eu une carrière magnifique, m'avait appelé. Il était le secrétaire général de Publicis, le numéro 2 à l'époque. Et il m'avait dit, écoutez, on doit changer de système informatique. Je vous propose de venir vous casser la figure avec moi parce que j'ai pris des engagements intenables.
Voilà.
Et l'idée, non pas de me casser la figure, mais de relever un défi un peu exceptionnel, m'avait énormément plu. Et puis surtout, il faut savoir que Publicis était la mecque de la publicité à Paris. C'était cet immeuble fabuleux dont on a parlé tout à l'heure sur les Champs-Élysées. Il y avait le drugstore où tous les minés allaient se retrouver. C'était l'endroit le plus à la mode, demandé à Dutronc. Et c'était vraiment le lieu où il se passait énormément de choses. Et Marcel Bleustein-Blanchet, je rêvais de le rencontrer. C'était le pape de la pub. Enfin, c'était incroyable d'avoir cette chance-là. Et donc, j'ai accepté.
Voilà. Et justement, vous l'avez rencontré. On va en parler avec une autre date, le 18 décembre 1981. À tout de suite sur Sud Radio avec Maurice Lévy.
Sud Radio, les clés d'une vie, 11h midi, Jacques Pessis.
Sud Radio, les clés d'une vie, celle de mon invité Maurice Lévy. Une date importante, mais qui ne vous rappellera peut-être pas grand-chose, le 18 décembre 1981, il y a un journal télévisé sur la publicité. Sergio Leone reçoit un prix, et c'est la première fois que vous êtes à la télévision avec Marcel Bleustein-Blanchet dans ce journal, Maurice Lévy.
Je me rappelle très bien. On a fait d'ailleurs des films formidables avec Sergio Leone. Il faut savoir que c'était un réalisateur gigantesque. Et c'était des moments magnifiques.
Et là, dans cette émission de télé, ce reportage, Marcel Bleustein-Blanchet parle de la nécessité économique de la pub. Et vous expliquez que notre pays est en retard par rapport à d'autres pays comme le Japon ou la Suisse. Et vous êtes alors vice-président de Publicis.
Oui.
Et vous expliquez dans ce
journal. Et d'ailleurs, il faut dire que ce retard, on ne l'a pas comblé.
Non.
Loin s'en faut.
Mais on
l'a même creusé.
Ben, en même temps, en 81, vous annonciez déjà la couleur et ce n'était pas encourageant. Mais vous dites aussi que certains se méfient de la publicité encore à cette époque-là.
C'est exact. Et il y a les publiphobes c'est vrai qu'il y avait aussi un vent favorable à la publicité parce que tout le monde considérait que Mitterrand avait été élu à ce moment-là grâce à la publicité et grâce à la campagne de Jacques Séguéla. Donc c'était un peu mixte, si j'ose dire. Il y avait d'un côté les détracteurs de la pub et de l'autre côté les publiphiles qui trouvaient que c'était une époque formidable.
Oui, et le retard aussi, la télévision en était responsable, puisque jusqu'en 68, la pub, c'était uniquement des campagnes d'intérêt général ou alors des spots sans intérêt, et que tout a changé et que vous êtes aussi pour beaucoup dans tout ça. Et Marcel Bleustein-Blanchet y a été pour beaucoup. Et je crois que vous êtes arrivé à un moment où Marcel Bleustein-Blanchet venait de publier un livre qui s'appelait « La rage de convaincre ». Et il avait raconté comment il avait débuté en 1926 Faubourg Montmartre dans un deux pièces où il y avait une charcuterie à côté et l'odeur en permanence.
Absolument, il était au-dessus de la charcuterie, au premier étage, et il y avait l'odeur en permanence. Et ces locaux, je suis allé les visiter. Et l'épopée de Marcel Bleustein-Blanchet est une épopée extraordinaire. C'est un homme qui a traversé le siècle, qui a rencontré tout ce qui se faisait de moderne, qui a vécu aussi la guerre dans ce qu'il y a de plus horrible, qui a perdu l'essentiel de sa famille à Auschwitz, et qui a été un très grand résistant, qui a rejoint le général de Gaulle, qui a eu un rôle essentiel dans la résistance. Et donc, il a non seulement été un très grand chef d'entreprise, un très grand publicitaire, il a fait des campagnes extraordinaires qui l'inspiraient personnellement, mais en plus de ça, il était un très grand patriote. Et ça, c'est quelque chose qui est extrêmement important. Moi, je crois que les entreprises ont des racines, qu'elles appartiennent, bien sûr, à des actionnaires et aux salariés, mais qu'elles participent de la vie du pays, de la vie de la cité, et qu'elles ont des devoirs par rapport au pays et à la cité.
Alors, il faut savoir aussi que Marcel Bleustein-Blanchet a été le pionnier de la réclame, on le disait à l'époque, et que, curieusement, vous avez commencé vos études grâce aux chaussures Bata. L'une des premières campagnes de Marcel Bleustein-Blanchet, c'était pour les chaussures André, le rival, avec un slogan qui était « André le chasseur, le chausseur sachant chausser », qui était de Charles Trenet.
Absolument.
Voilà. Et effectivement, vous êtes arrivé là-dedans pour l'informatique, et puis vous avez grandi l'entreprise. Ça s'est fait comment, Maurice Lévy ?
Écoutez, ça s'est fait de manière assez naturelle. Au début, bon, j'avais un passé de publicitaire, puisque j'avais géré des comptes, j'avais fait des campagnes. J'avais donc un passé de publicitaire quand j'ai rejoint Publicis, mais j'étais surtout un informaticien. Et après l'incendie, Publicis a connu des moments un petit peu difficiles. Effectivement, il fallait tout reconstruire. Et il se trouve que l'informatique a joué un rôle clé. Et à ce moment-là, je voyais assez régulièrement ma salle de Saint-Blanchet pour traiter des sujets touchant au mode de fonctionnement de l'entreprise, etc. Et il me confiait des missions. Et il avait un peu cette façon de faire, que j'étais un peu un déversoir. Chaque fois qu'il avait un problème, il le posait sur mon bureau. Et je le traitais, je trouvais la solution, et de manière plutôt satisfaisante. Et donc progressivement, il m'a confié des responsabilités. Et en 1973, un an après l'incendie, il m'invite à déjeuner, et il me dit: Maurice, j'ai décidé de vous confier à la direction générale de Publicis Conseil. Et il me dit donc: on va l'annoncer dans les jours prochains. Et je lui réponds: non, je crois que vous ne voulez pas me confier à la direction générale, je crois que vous voulez que je règle les problèmes, et donc je vais régler les problèmes et je ne veux pas du titre. Et puis, il a été très étonné, il m'a même dit: c'est la première fois qu'on refuse une promotion. Et je lui ai dit: mais je sais que c'est pas ce que vous voulez de moi. Je pensais sincèrement que c'était absolument pas ce qu'il voulait. Qu'il voulait vraiment que je règle les problèmes post-incendie. Parce qu'il y avait des difficultés dans tous les sens. Et j'ai donc travaillé pendant un certain temps à régler ces problèmes. Et puis un beau jour, il m'a appelé, il m'a dit: je ne vous demande pas votre avis. Je vous nomme directeur général adjoint à côté de Claude Marcus, et vous allez tous les deux co-diriger Publicis. Et c'est comme ça que nous avons vécu avec Claude Marcus une période jusqu'au début 81, où nous avons été les co-directeurs généraux de Publicis Conseil et des opérations françaises, avec un très beau succès d'ailleurs et une très belle entente.
Oui, et il vous a appris, Marcel Le Seine-Blanchet, Maurice Lévy, à cultiver l'enthousiasme.
Il m'a appris, et en même temps, c'est naturel chez moi. Je veux dire, je suis un optimiste né. D'ailleurs, il y a une très belle citation que j'ai apprise beaucoup plus tard, de celui qui était à l'époque, quand j'ai appris cette citation, Shimon Peres. Il était président de l'État d'Israël. Et un beau jour, on déjeunait ensemble et il dit « La différence entre un optimiste et un pessimiste, c'est que l'un et l'autre naissent et meurent de la même façon, mais vivent différemment. » Et il me dit: choisi d'être optimiste.
Et vous l'avez choisi. Et puis, vous en avez parlé, mais c'est important aussi. Ce drugstore, eh ben Jacques Dutronc l'a chanté.
J'ai pas peur des petits minets qui mangent leur ronron au drugstore.
Oui, car le drugstore, c'est Marcel Besselin-Blanchet.
Ah oui, définitivement. Il a cette idée magnifique. Quand il reprend ce qu'était l'hôtel Astoria et qui a servi d'état-major aussi bien aux Allemands que aux Alliés, il ne sait pas quoi faire, ni du lobby, ni de la salle de restauration. Et à ce moment-là, il a l'idée de faire un endroit luxueux et accessible. Et c'est ça qui était intéressant. C'était luxueux par les matériaux et c'était très accessible par les prix, qui était un concentré de boutiques. La pharmacie, les différentes boutiques cadeaux, parfumerie, le kiosque à journaux, tabac, le hamburger qu'il a importé des États-Unis. Ce n'est pas McDonald's qu'il a importé en France, c'est Marcel Le Seine-Blanchet. Les glaces américaines géantes. Et c'était l'endroit qui était devenu l'endroit à la mode et où tout le monde venait. Et où, d'ailleurs, pendant des années, le mercredi matin, vers 8h15 du matin, vous aviez des ministres qui s'arrêtaient, qui lisaient le Canard enchaîné avant d'aller, en prenant leur petit déjeuner, avant d'aller au Conseil des ministres, de manière à s'assurer qu'il n'y avait pas une tuile qui allait leur tomber sur la tête pendant le Conseil. Donc, c'était une période assez étonnante, et puis on avait un mélange. On avait des petits jeunes qui se mettaient à 4 pour un coca, et puis on avait des gens qui allaient au cinéma, ensuite dîner à plusieurs, de manière très généreuse, et on avait quelques stars qui étaient des habitués, et quelques très grands fidèles qui étaient très attachés au Drucksor. C'était un lieu qui est un melting pot formidable, transgénérationnel, et extraordinairement moderne.
Et ce qui est moderne aussi, c'est tout ce que vous avez fait. On en parle avec une autre date, le 13 décembre 2016. A tout de suite sur Sud Radio avec Maurice Lévy.
Sud Radio, les clés d'une vie, 11h midi, Jacques Pessis.
Sud Radio, les clés d'une vie, celle de mon invité Maurice Lévy. Une date importante pour vous, président de Publicis, le 13 décembre 2016. La séquence existe sur YouTube, ce sont les vœux. Des vœux avec un déménagement surréaliste. Les vœux de la nouvelle année au personnel.
Oui, il se trouve qu'il y a maintenant un peu plus de 10 ans, j'avais pris l'habitude de faire des vœux tous les ans et je trouvais que ces vœux étaient un peu compassés et qu'ils obéissaient à... je ne vais pas employer l'expression, mais c'était un peu ennuyeux. Ça obéissait aux règles classiques des vœux, mes chers amis, mes chers collaborateurs, et blablabla. Je me suis dit, mais on les embête. Et quand l'équipe était venue pour préparer la séance des vœux, je ne me rappelle plus quelle année, c'était 2008 ou 2009, j'ai dit, écoutez, non, on ne va pas faire la même chose. Je vais faire mes vœux en chinois. En chinois, vous. Oui, en chinois. Et donc, j'ai appris un texte assez long, d'ailleurs. C'était 4-5 minutes. Donc, c'est très long. Vous qui faites de la radio, vous savez à quel point c'est long, 4 minutes. Et j'ai délivré mon message en chinois. Je me suis fait accompagner par un professeur de chinois qui l'a écrit en phonétique. Je l'ai appris. Et puis après, je l'ai délivré. Et ça a eu un succès considérable. Énormément de vues sur YouTube, le net qui commençait à émerger, etc. Et les gens ont trouvé ça formidable. Et donc, le coup d'après, j'ai décidé de faire autre chose. Et puis, chaque année, c'était un peu plus déjanté. On a fait toutes sortes de choses jusqu'à un moment donné où j'ai parodié des campagnes de publicité, où je me suis mis en scène dans une dérision complète. Et puis les adieux, c'était 2016, oui. Effectivement. Je m'apprêtais à quitter la présidence du directoire et je retenais tout parce que je ne voulais pas partir. Et je voulais montrer que je m'accrochais. Bah, évidemment, je ne m'accrochais pas, puisque c'est tout ceci, je le voulais, j'avais voulu cette succession, et je pensais que c'était la bonne chose à faire pour l'entreprise. Et je me suis retrouvé dans cette situation parodique assez amusante, et ça a très bien marché, ça a été un grand succès.
Voilà, il y avait juste un pot de bonbons, qui était une tradition chez vous, et un mug I am the, the boss.
Ah oui, bah, ça c'est les constantes. C'était les constantes depuis pas mal d'années. Sur chaque vœu, il y avait un mug, I am the boss. Et puis, il y a, et encore, si vous venez à mon bureau pour m'accompagner tout à l'heure, vous allez voir que sur mon bureau, il y a une espèce de jarre transparente, pleine de bonbons. J'ai toujours aimé offrir des bonbons. Je vous ai apporté des bonbons parce que les fleurs, c'est périssable. Donc, voilà.
Alors, la succession, justement, un jour, Marcel Bustin-Blancet vous a choisi comme successeur, Maurice Lévy. Je pense que pour vous, ça a été un moment d'émotion et presque une surprise.
C'était un très grand moment d'émotion. C'était une demi-surprise. Ce n'était pas vraiment une surprise parce que ça a été un peu préparé. Mais la vraie surprise, c'était avant l'annonce officielle de la succession. Il nous avait invités, ma femme et moi, à passer un week-end dans sa maison aux Issambres. Et donc, nous sommes partis passer 3 jours, 4 jours, je ne me rappelle plus, dans ce week-end. Et puis, on a passé des moments merveilleux. Et puis, à un moment donné, il a parlé sérieusement. Et c'est à cette occasion-là, on est donc au mois de mai 2016, qu'il dit à ma femme, pas moi, pas moi. Il dit, je veux que ce soit Maurice qui me succède. Et puis après, il me l'a dit. Et donc, il voulait la prévenir, que ça allait demander beaucoup de travail, que ça allait être une période très intense. Elle lui a d'ailleurs répondu, je ne vois pas comment il peut travailler plus. Il dit, oui, mais c'est comme ça. S'il veut réussir, il faut qu'il travaille.
Et résultat, pendant 30 ans, vous avez travaillé 6 jours sur 7, de 7h du matin à 23h au minimum, Maurice.
N'exagérons pas, ce n'était pas toujours à 23h, mais c'est vrai qu'il y avait beaucoup de dîners, beaucoup de choses de ce genre. Et c'est vrai que j'étais et je suis toujours un matinal. Et donc, 6h, 6h30, 7h, je travaillais très tôt le matin parce que ça me permettait d'être seul, de préparer ma journée. Et c'était le moment où je pouvais préparer ma journée. Puis après, progressivement, je me suis retrouvé à avoir un premier petit déjeuner à 7h30, un deuxième à 8h30. Bon, tout comme il m'est arrivé d'avoir 2 déjeuners. Donc, c'était une période un peu difficile, un peu tendue, beaucoup, beaucoup de travail pour mettre en route tout cela. Et puis surtout avec une idée que j'ai eue immédiatement et que j'ai partagée avec Marcel de Saint-Blanchet, c'était l'idée de la mondialisation. Dès 80. 7, je lui ai dit, ce n'est pas très compliqué, si vous me choisissez, il faut que vous sachiez que il faut que notre groupe devienne mondial.
Et ça voulait dire prendre des risques.
Ah oui, ça voulait dire prendre des risques, ça voulait dire investir, ça voulait dire aller dans des territoires étrangers. Je me rappelle un jour, je lui ai dit, il faut qu'on se développe sur les États-Unis. Il me dit, mais Maurice, qu'est-ce que vous voulez faire aux États-Unis? Ils ont tout. Ils ont tout. Qu'est-ce qu'on va leur apporter? Ils savent tout. Ils ont inventé la publicité. Ils ont inventé le marketing. Soyez modestes. On ne peut rien leur apporter. Et j'ai eu l'outrecuidance de lui dire, si, on peut leur apporter la différence. Et ça a été le thème sur lequel nous avons bâti notre groupe qui est et tout le développement international qui est celui de la différence. Partant du principe que les Américains étaient en train de promouvoir une idée qui était celle de l'homogénéisation, de l'américanisation, de la dimension mondiale des campagnes. Et je me suis dit que, compte tenu du fait qu'on était français, qu'on avait nos spécificités, notre exception culturelle qui avait fait couler pas mal d'encre, et qu'on était un peu particulier, il y avait certainement beaucoup de pays qui étaient dans la même situation et qu'il y avait beaucoup de peuples qui préféraient qu'on leur parle dans leur langue que dans celle de Mark Twain. Et donc, j'ai lancé le concept de la différence en disant une chose très simple. Marcel de Saint-Blanchet considérait que la différence, c'est ce qu'on était capable de créer pour une marque, et on créait une gratification différentielle qui conduisait à la préférence. Et puis, de mon côté, je me suis dit que ce qu'on pouvait faire, c'était être un groupe différent et apporter cette différence aussi dans les pays, non plus seulement sur les marques, mais dans le dialogue avec les consommateurs de chaque pays. Et ça a été une épopée absolument fabuleuse.
Une épopée sans la moindre fatigue, Maurice Lévy, malgré les heures de travail, est toujours impeccable. C'est-à-dire, l'image du pubeur, comme on dit, c'est souvent une fantaisie débridée. Vous, c'est toujours la rigueur totale dans le costume, dans la cravate. C'est presque votre image de marque.
Alors, c'est vrai que, je ne suis pas un pubard.
Oui.
Et que je ne l'ai jamais été. Deux, je n'ai jamais vécu que dans le monde de la pub. Les pubards vivent généralement dans un phalanstère entre eux. Moi, je vis dans mon univers, à la fois familial, amical, mes relations, les chefs d'entreprise, les gens avec lesquels j'aime échanger. Et j'ai un univers très varié. En plus, je suis rigoureux, presque parfois rigide. Et ça, ça tient... Il y avait quelqu'un qui m'avait traité de séfarade jansénite. D'une certaine façon, ce n'était pas complètement faux. Je ne suis pas quelqu'un qui est là dans les embrassades, dépoitraillé, l'image classique, bruyante, etc. Je suis pour une certaine tenue, une certaine rigueur et une certaine distance. Et j'aime bien la dimension de distance. En plus, j'ai beaucoup de mal à tutoyer. J'ai très peu de gens que je tutoie. Je peux dire à l'antenne qu'on se tutoie dans la vie. Et c'est contraire à l'univers de la pub. Et donc, ça m'a mis un petit peu à part. En même temps, cette distance m'a rendu service.
Voilà. Alors, vous avez quand même un côté punk. Écoutez ceci. Car j'ai découvert que le groupe Clash, qui oui. s'approche de Casbah, ça fait partie de vos musiques favorites, Maurice Lévy.
Bah, à l'époque, oui, et c'était effectivement pas seulement punk, c'était un peu, c'était aussi des chansons militantes où il y avait une volonté un peu de dénoncer, c'est-à-dire par rapport à la musique yéyé, un peu tristounette sur le plan du fond, je ne parle pas sur le plan du ton, de la variété française, il y avait quelques chanteurs engagés, et dans le rock, il y a eu les Clash qui m'ont effectivement marqué.
A tout de suite sur Sud Radio avec Maurice Lévy.
Sud Radio, les clés d'une vie, 11h midi, Jacques Pessis.
Sud Radio, les clés d'une vie, celle de mon invité Maurice Lévy. Alors il faut savoir donc qu'aujourd'hui vous êtes président du comité de surveillance de Publicis, du conseil de surveillance. Vous n'êtes plus actif, mais en même temps vous donnez votre avis. Mais surtout, vous continuez à travailler dans les bureaux de Publicis avec un projet que vous avez fait naître le 24 novembre 2020, qui est Escalator. Qu'est-ce que c'est ? Parce que ça, c'est quelque chose qui vous tient à cœur depuis longtemps.
Oui, c'est une idée qui me tient à cœur depuis très longtemps. J'ai beaucoup travaillé sur les sujets d'intégration. Il se trouve qu'une des premières campagnes à laquelle j'ai participé, ça a été une campagne pour Lionel Stoléru, pour la revalorisation du travail manuel. C'est vous dire. Et comment ensuite mieux intégrer on est dans les années 70, hein, c'est les années Giscard, et comment mieux intégrer les immigrés. Donc c'est vous dire que c'est un sujet qui est récurrent, et je me disais qu'il fallait que je fasse quelque chose. Et j'ai eu l'idée de créer un incubateur, c'est-à-dire un endroit qui allait accueillir des projets de start-up, et d'offrir... à des gens issus, pour l'essentiel, de l'immigration, mais pas seulement, des gens qui n'ont pas la chance d'être nés dans un environnement familial qui leur donne les moyens et les réseaux, et de leur offrir non seulement l'environnement professionnel, mais un encadrement, la possibilité d'être coaché, la possibilité d'avoir un mentor, d'avoir des aides sur le plan de la technologie ou de la gestion ou du marketing. Et j'ai proposé cette idée à un certain nombre de chefs d'entreprise. Alors, ça a été Total, BNP, L'Oréal, LVMH, Prodware, JC Deco et la famille. Bon, beaucoup d'entreprises, Microsoft, Google, ont accepté de participer. Et nous avons lancé cet escalator. C'est quoi ? On va dire qu'il fut un temps où il y avait un ascenseur social qui fonctionnait très bien. Pour dire les choses gentiment... l'ascenseur social a dératé. Il s'arrête entre deux étages, il ne permet pas aux gens de descendre au bon étage, il va plutôt vite à la descente et pas assez vite à la montée. Donc, on se dit qu'il faut faire quelque chose. Et j'ai choisi un escalator, ce qui permet d'ailleurs aux gens d'avancer à leur rythme. Ils peuvent se laisser porter par la vitesse de l'escalator, ils peuvent aller plus vite, ils peuvent ralentir. On leur offre tous les moyens et puis... il y a aujourd'hui plus de 140 dossiers qui ont été déposés. Certains sont très intéressants. Et le 29 janvier, on va clore le dépôt de dossiers. Ça s'adresse essentiellement aux gens de la région parisienne. Je suis désolé, mais il faut vivre dans la région parisienne pour pouvoir y avoir accès. On verra par la suite si on fera plus. Et un jury se réunira en février pour les sélectionner. Et à partir de mars, ils seront installés à Levallois, dans un environnement où tout est neuf. Parce que j'ai pensé que plus les gens viennent de milieux défavorisés, plus il est important qu'ils aient le sentiment qu'ils sont bien traités. Avec des ordinateurs qui sont les plus récents, des serveurs qui sont tout à fait suffisants, le cloud gratuit, la possibilité d'être complètement épaulé, comme je disais. Et on va suivre leur dossier semaine après semaine. On va voir s'il y a des dérapages dans les plannings. On va voir s'ils ont des difficultés. On va les aider à surmonter leurs difficultés. On va faire appel à des spécialistes s'ils ont des problèmes d'intelligence artificielle, de blockchain ou de technologie, ou tout simplement de marketing ou de finance. Donc... on va les aider à trouver les fonds. Et les plus prometteurs, on leur donnera même des moyens financiers.
En prenant une participation dans leur future société.
Absolument. Alors pourquoi ? Tout simplement parce que je ne veux pas que cela passe pour de la charité. C'est non seulement une question de dignité, c'est aussi une question de responsabilité. Je veux que les gens aient le sentiment qu'ils ont une obligation. C'est un contrat. C'est un contrat qui est passé entre eux et l'escalator. Tu veux venir à l'escalator, tu dois remplir tes obligations, tu dois respecter une charte de conduite, de bonne conduite, et tu dois respecter tous tes engagements. Et nous, en échange, on va t'aider à réussir ton projet et on va t'apporter tous les moyens pour le réussir.
Alors, pour votre information, le mot escalator, c'est un Français qui l'a trouvé, Charles Seeberger, en 1897, et c'est une contraction de scala, qui signifie degré d'escalier, d'élévator, ascenseur.
Formidable. Donc, le JDD, qui avait parlé d'élévator une espèce de lapsus, ne s'est pas trompé.
Voilà.
En fait, c'est bien ça, il s'agit d'élévator. Mais c'est bien le but. Oui. C'est d'élever la personne.
Et surtout, en ces temps difficiles, je pense que c'est une façon pour vous de rendre un peu ce qu'on vous a apporté, Maurice Lévy, en aidant la nouvelle génération qui a bien des difficultés à avancer.
Je n'ai pas voulu le faire dans cet état d'esprit. Je veux dire que le give back to community, qui est l'expression américaine pour « je rends à la communauté ce qu'elle m'a apporté », c'est un peu trop américain et moi je reste fondamentalement français. Mais la chaîne de l'espoir, la main tendue, l'épaule sur laquelle on peut s'appuyer, le coup de pouce, ça me paraît être beaucoup plus vrai et beaucoup plus authentiquement français.
Alors, il y a quand même une chose qui est évidente, c'est-à-dire que Marcel Blochin avait inventé la fondation de la vocation. C'est un peu le même principe.
Ça m'est arrivé... Écoutez, je m'en suis rendu compte après. Et je ne m'en suis rendu compte qu'après avoir lancé l'opération. Je n'avais pas fait la relation. Pour moi, la fondation de la vocation, c'est quelque chose de sacré. C'est l'univers de Marcel Blochin. Et donc, en aucun cas, il ne m'est venu à l'esprit ni de tenter de l'imiter, ni de tenter de m'immiscer dans cette belle aventure qu'est la Fondation de la Vocation, qui est maintenant présidée par Elisabeth Badinter. Mais tout d'un coup, je me suis rendu compte, je crois que C'était après les premiers papiers sur l'escalator. Je me suis dit, mais oui, c'est vrai qu'il y a un parfum de fondation de la vocation. Et donc, je lui demande pardon parce que je n'ai pas l'intention de faire une pâle imitation de cette magnifique aventure. Mais j'ai bien l'intention de faire quelque chose de très différent et j'ai bien l'intention d'apporter un coup de main à beaucoup de jeunes.
Alors, la Fondation de la Vocation, en fait, je crois qu'il avait eu l'idée 33 ans avant de la créer, par son père qui lui avait dit, quand il avait voulu faire ce métier, tu veux vendre des courants d'air, je ne vais pas t'en empêcher.
C'est ça, mais c'est surtout l'idée de la Fondation est née quand, voulant rejoindre le général de Gaulle, il traverse les Pyrénées, il est arrêté par la police espagnole et il est mis en prison. Comme un certain nombre de ressortissants français résistants qui veulent rejoindre Londres. Et dans la promiscuité de la prison, il se rend compte de la chance extraordinaire qu'il a eue à faire non seulement la plus belle agence de publicité, la radio privée, la première radio privée.
Radio Cité,
effectivement, mais aussi la très belle aventure des régies. Et il s'est dit, si je sors de là, j'aiderai un jeune. Et il n'a pas aidé un jeune, il a aidé plus d'un millier de jeunes. Je ne veux pas dire de bêtises, mais je crois qu'il y a plus de 1500 jeunes qui ont été aidés au fil des années. Et ça lui tenait énormément à cœur. Et c'était un régal de le voir les soirées de la Fondation. Il voyait dans le regard de tous ces jeunes qui l'aidaient le même regard que lui avait quand on lui avait permis de se réaliser. Et il y a des noms célèbres. Je veux dire, Yves Coppens...
Michel Siffre.
Alain Bougrain-Dubourg. Il y a des médecins, des chercheurs. Il y a énormément de gens de très grands talents qui sont passés par la Fondation de la Vocation.
Alors, Maurice Lévy, vous, bon, bien sûr, il y a la pub, mais il y a aussi autre chose. Vous êtes toujours allé beaucoup plus loin. Par exemple, le Forum de Davos auquel vous avez participé est souvent co-organisé. Ça prouve que la pub, c'est le point de départ vers notre société de demain et d'aujourd'hui, vers d'autres problèmes.
La pub, c'est au centre de la vie et c'est un reflet de la vie. Il ne faut pas se tromper. La pub ne crée pas de courant, ne crée pas de mode, elle les révèle. Ce sont uniquement des choses qui sont susceptibles d'exister et elle accélère le développement. Elle permet à la Renault 5 de devenir la voiture la plus vendue très rapidement, etc. etc. Donc, la pub est un formidable accélérateur de tendance et accélérateur de comportement. Mais ce n'est que ça. Et donc, c'est un élément de la société. Et la société est diverse, variée. On a la chance extraordinaire d'être à un carrefour, il faut servir ce carrefour. Le Forum de Davos, c'est quelque chose d'exceptionnel. Ça permet à des gens de se faire entendre, de se documenter, de rencontrer, de protester, d'être d'un avis différent, d'apprendre. Le nombre de choses que j'ai pu apprendre en m'asseyant sagement dans des tables rondes et en écoutant des gens beaucoup plus brillants que moi, mais c'est extraordinaire. Et donc, moi, je trouve que c'est une fenêtre sur la globalisation, sur le monde, et de voir un comportement d'un Poutine, d'un Xi Jinping... parce qu'il est venu, de voir le discours, comment est-ce qu'il le fait, etc. Comment est-ce qu'il se conduit, même avec les gardes du corps, avec les autres, d'un Trump, et bien sûr d'un Macron ou d'un Sarkozy. Tout ça, c'est extraordinaire. Merkel, et de les suivre et de les voir, on apprend énormément de choses. Et moi, je suis pour apprendre constamment.
Voilà, vous n'avez jamais cessé d'apprendre. Il faut savoir que le premier forum a été organisé par un professeur d'économie qui s'appelait Klaus Schwab en Suisse.
Et
qui s'appelle toujours. Alors, toujours. Il s'est trompé. Il voulait appeler Olivier Giscard d'Estaing. Il a appelé Valéry Giscard d'Estaing qui était président à l'époque.
Oui, absolument. Alors, et Raymond Barre a été l'homme qui a permis au forum de Davos d'exister.
Alors, vous apprenez sans cesse, Maurice Lévy, vous allez continuer parce qu'il n'est pas question d'arrêter. La retraite, ce n'est pas un mot qui est dans votre vocabulaire.
Alors, Marcel Boussin-Blanchet avait une expression qui était très simple. La retraite, en termes militaires, c'est presque une déroute.
Donc, c'est votre cas.
Et les Espagnols, puisque ça a été ma première langue, ont une définition de la retraite et un mot pour la retraite qui est beaucoup plus excitant que le mot français. C'est la jubilation. Et la jubilation, c'est la jubilation. Et donc, jubiler pendant sa retraite, ça veut dire quoi ? Ça veut dire s'amuser en travaillant.
Voilà.
Et il ne faut pas arrêter de travailler. Je veux dire, c'est la vie... pour moi, le travail, c'est un peu comme pédaler. Le jour où on s'arrête, le vélo tombe.
Eh bien, surtout, restez sur le vélo. Le travail, c'est la santé. Ça, je vous le confirme, il n'y a qu'à vous regarder. Tous mes voeux pour ce succès d'Escalator, qui est une belle entreprise. Et puis, vous avez tellement de choses à dire que vous serez toujours le bienvenu dans les clés d'une vie, Maurice Lévy.
Merci, merci. Je suis très heureux d'avoir participé à cette émission. Et puis, c'est un plaisir de suivre le parcours que vous avez choisi, un peu comme les pierres du petit poussé.
Eh bien, continuons comme ça. Merci Maurice Lévy. Les clés d'une vie, c'est terminé pour aujourd'hui. On se retrouve bientôt. Restez fidèles à l'écoute de Sud Radio.